intérieure. En soi et chez soi. Une émission de Daniel Fazan.
Bonsoir et bienvenue. Bienvenue du côté de Montreux, mais en réalité, un des hameaux au-dessus de Montreux, juste en dessous de l'autoroute, on l'entend un tout petit peu, un lieu où se cultivent des bananiers, figurez-vous, parce que j'en vois tout plein devant la maison, et je crois qu'il y en a encore derrière. C'est un mélange de végétation extraordinaire dans une villa qui surplombe l'Léman, et dans ce lieu-là, nous allons visiter le photographe qui... durant 20 ans peut-être, a fait 700 couvertures de Femina et des photos de mode à Paris, des photos de mode étranges, quelquefois bizarres, quelquefois extraordinaires, quelquefois exaspérantes, enfin bref. Dominique de Cibourg est cet artiste, ce photographe que nous allons visiter ce soir. Il est aussi l'auteur des photographies du nouvel ouvrage de Didier de Courtenne, nouvel ouvrage en fait, premier ouvrage de recette. Il est un photographe de 47 ans qui est d'origine ch'ti, c'est-à-dire du nord de la France. Il est installé en Suisse depuis quelques années, et puis, enfin, peut-être même une vingtaine, on lui posera la question tout à l'heure, et il fait carrière, il a un œil, c'est un homme assez étonnant que j'ai rencontré juste une fois, en vitesse, je sonne donc à sa porte, Dominique de Cibourg, dont on dit depuis des années qu'il est peut-être une femme, ça c'est rigolo, non, en réalité, on a vu... Bonsoir. Bonsoir Dominique. On s'est dit... plusieurs fois, moi je me suis demandé si Dominique de Cibourg était une dame.
Alors déjà, c'est de Risbourg.
Et oui, donc, de Risbourg. Pardon.
Je suis un garçon.
Oui, vous êtes un garçon. Et quand on voit vos sourcils, on se dit que vous êtes le fils de Brejnev.
Petit. c'est la marque de fabrique de famille.
On s'est rencontrés juste une fois en coup de vent. J'avais depuis des années envie de vous rencontrer. Vous êtes pour moi le photographe de la mode de Femina pendant des années. 700 couvertures, c'est exceptionnel. C'est une sorte de Guinness Book et de prix que vous pourriez recevoir. Vous êtes un créateur ou vous êtes un photographe? Un œil ou un vrai créateur comme les gens de la mode?
Non, je pense que plutôt un artisan. Je pense que moi, je photographie ce que je vois, je fabrique avec les choses que je peux voir, donc je me considérerais plus comme un artisan. Je pense pas que me considère pas du tout comme un artiste.
Et pourtant, quand même, dans toutes vos actions, il y a une part créative qui est relativement importante. Le photographe, c'est pas seulement un homme qui constate et qui est le témoin de quelque chose, c'est aussi un acteur de la photo.
Oui, peut-être quand on fait un travail, sur mon travail personnel, quand je fabrique mes fonds moi-même, comme des peintures, quand je décide de photographier une fleur sur un fond avec la lumière que je veux et que je fais un tirage sur un papier particulier, que je peux maîtriser la chose de A à Z, peut-être que là, je peux être un peu plus un artiste. Mais sinon, je photographie ce qu'on me demande de photographier. Donc déjà, il n'y a pas la volonté de créer quelque chose, puisque je suis plus un témoin.
Dominique de Risbourg, vous êtes arrivé en Suisse il y a quelques années, quoi, 25 ans quand même?
Ça doit faire 25 ans, oui.
Pour quelle raison vous débarquiez ici dans ce pays et pour quelle raison vous y êtes resté?
Alors, il y a une école de photo à Vevey qui était très connue, qui doit toujours être connue, j'espère. Et donc, je suis venu faire l'école de photo et en faisant l'école, j'ai eu la chance de rencontrer ma future femme et je suis resté. Voilà.
Ah, c'est pas un amour du pays, c'est un amour féminin?
C'est un amour féminin.
Mais c'est aussi un amour du pays?
Exactement, par la suite.
Derrière vous, une statue totémique, enfin, difficile de dire son origine. Ce lieu est assez extraordinaire parce que d'abord, on arrive en haut dans la maison, on voit une cheminée suspendue au milieu du salon, et puis la lumière au loin avec les lumières de la France juste sur le lac, c'est une sorte de balcon de nid d'aigle ici, et puis une sorte de deck, visiblement, vous avez tout allumé ce soir. C'est comme si on voyait d'un avion une vision, en même temps deux bateaux sur le paysage. Cette maison, elle vous ressemble vraiment, là?
Oui. Oui, parce que quand on est arrivé, on a déjà cassé plein de choses, on a redonné les couleurs qu'on voulait. Moi, je suis un passionné de peinture et de couleurs, et on voulait pas les murs blancs, donc on a retravaillé des murs de couleurs gris anthracite, des couleurs ocre. Et donc, le soir, la journée, on a toujours une coloration très, très chaleureuse. Et le soir, quand on a les couchers de soleil, ça devient magique. On a l'impression qu'on a presque le feu dans la maison. Mais non, j'adore.
Ouais, j'adore aussi, mais en plus, il y a des bananiers absolument partout. Il y en avait du côté nord de la maison, ce qui est extraordinaire, du côté de Montreux, ici, au mois d'octobre, enfin, à mi-octobre. Ces bananiers, ils vivent toute l'année, ici.
Oui. Alors, pour la petite histoire, je voudrais pas dire de bêtises, mais on a un de nos voisins qui était assez fasciné par tout ce qui est les bananiers et les plantes, et on nous a raconté qu'en réalité, au début du siècle, il y a les Anglais qui adoraient la région de Montreux, revenaient d'Afrique, du Kilimandjaro, avec des bananiers de là-bas. Et c'est des bananiers qui ont été acclimatés donc à une certaine altitude, qu'ils ont ramenés à Montreux, et donc les bananiers qu'on a, c'est ça. Et donc, on récupère un bout de bananier chez un voisin, on le plante dans notre jardin et ça devient un peu comme une mauvaise herbe, ça pousse dans tous les sens et ça résiste au froid.
Intérieur, de la cave au grenier, d'une pièce à l'autre, le cadre révèle son hôte.
Dominique de Risbourg. Justement, c'est ce personnage derrière vous, qui était un personnage mâle, visiblement, parce qu'il a un cache-sexe, mais qui cache pas grand-chose. C'est un personnage en bois, c'est un personnage tout à fait fascinant. Et c'est extraordinaire dans cette maison, cette ambiance. D'où vient-il ?
Ah, il vient de Nouvelle-Guinée, Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et on l'a trouvé, donc on l'a acheté en Nouvelle-Calédonie.
Il a fait la moitié de l'océan du Pacifique Sud et puis vous l'avez ramené ici. Pour quelle raison vous étiez en Nouvelle-Guinée, Papouasie ?
On a une cousine qui a habité en Nouvelle-Calédonie pendant quelques années. Et en allant lui rendre visite, on a découvert ce pays qui est absolument extraordinaire, loin mais extraordinaire. Et on a surtout découvert toutes ces sculptures, ces objets, cette peinture qui est magique.
C'est vrai que c'est très très beau. Quand vous dites que c'est magique, ça transporte des forces selon vous, étranges, non dominées, curieuses, fascinantes. Enfin, parce que je trouve que c'est pas anodin d'avoir soit des masques africains, parce que j'en vois ailleurs. Ah ben il y en a d'autres de personnages. On va les voir là-bas contre le mur, ce mur anthracite justement. Extraordinaire personnage. C'est presque inquiétant.
Ça peut faire peur, il y a des gens qui ont peur. Mais non, on trouve qu'il y a le rapport de couleur, la forme, c'est quelque chose de magique. Et ça, alors, ça ressemble à une sculpture, en réalité, c'est un crochet à viande.
Pardon ?
Alors, je voudrais pas me dire de bêtises, mais on nous a dit que c'était donc dans les tribus, dans leurs maisons qui sont un peu sur pilotis pour se protéger un peu des animaux. Donc, ils accrochent ça à l'intérieur de leur maison et ils accrochent la viande pour la faire un peu sécher.
Alors ça fait quand même, c'est un personnage qui est grand comme un enfant de 10 ans quand même. Et puis c'est vrai qu'il y a une sorte d'écusson en bas avec des cornes. Et c'est à ces cornes-là ou à ces pointes qu'on accrocherait éventuellement la viande ?
Alors à première vue, oui. C'est surprenant, mais ça fait deux visages. Et ce que nous, on a toujours trouvé magique, c'est que les yeux, c'est des coquillages.
Oui, c'est vrai que c'est très très beau. Dominique de Risbourg, l'esthétisme, c'est hyper important. Vous avez fait 700 couvertures de Femina. Vous avez regardé, photographié des femmes, des jeunes filles, presque polanskiennes, quelquefois extrêmement jeunes. C'est quoi ? Vous avez une définition vous-même de l'esthétique ou c'était l'esthétique des autres que vous photographiez ?
J'ai ma façon de voir d'aimer les choses. J'ai mon esthétisme à moi, mais quand on fait des photos de mode, on est tributaire des mannequins, des créateurs et des tendances. Donc il y a des périodes où vous avez des mannequins qui viennent de certains pays, qui ont des visages plutôt comme cela ou autre, et on est obligé de prendre un petit peu, on fait un peu son marché en gros. C'est un peu horrible à dire, mais quand on fait un casting dans une agence de mannequins, ben on prend les gens qu'on peut avoir et qui correspondent à la tendance, et puis surtout qui vont rentrer dans les habits, parce que les habits qu'on photographie sont fabriqués par des créateurs, et quand on photographie pour les magazines, on photographie 6 mois à l'avance. Et donc, on est obligé de prendre ces habits faits par ces créateurs. Et pour que les mannequins rentrent dedans, il faut que les mannequins aient une taille de créateur.
Donc, une taille d'anorexique, parce que la plupart des créateurs ne sont pas forcément des hommes qui aiment profondément les femmes, si je puis dire, et qui sont des divinateurs, ou en tout cas des idolâtres de la maigreur. Et on vous l'a reproché quelquefois ?
On me l'a reproché très souvent. J'ai des amis proches qui m'ont reproché qu'il y avait des enfants qui étaient malades en me demandant « Mais pourquoi tu prends des gens aussi minces ?» Et j'avais beau leur expliquer que malheureusement, je ne pouvais pas faire autrement, que je devais prendre des gens qui pouvaient rentrer dans les habits qu'on nous prêtait. Il n'y a pas d'autre solution. Bon, je pense qu'effectivement, sur un défilé de mode, quand vous avez un grand podium, les gens grandes et minces portent peut-être mieux les habits. Peut-être, c'est une façon de voir les choses. Je ne suis pas sûr du tout, mais... c'est leur façon de voir les choses. Je pense que le jour où des créateurs de mode feront des habits sur des gens plus ronds, plus normaux, je pense qu'on pourra photographier ces habits et, les magazines changeront.
Mais vous n'êtes pas un peu servile, c'est-à-dire que vous servez à la fois la tendance, de toute façon c'est fabriqué, c'est un peu cucu, faut bien dire ce qui est, lorsque les pantalons ont été courts et larges, après il faut qu'ils soient étroits et longs, enfin je veux dire c'est juste tout simplement pour faire vivre le commerce, la tendance ça veut rien dire, puis en plus il y a les stylistes, il y a des gens, vous êtes servile, vous avez eu l'impression de photographier des filles avec des balais de cabinet dans les cheveux et puis des maquillages à la noix qui sont importables dans la vie de tous les jours et que ça ne servait à rien.
Oui, tout à fait. Mais je dirais un peu, de temps en temps, c'est mon métier. Malheureusement, c'est vrai que je ne suis pas toujours très très fier de ce que j'ai photographié, ça, c'est clair. Je dirais que sur le nombre de choses que j'ai pu faire, il y a des choses que je peux pas regretter parce que ça faisait partie de mon métier. Puis c'est de l'information. Donc quand on vous montre des choses qui sont même pas spécialement belles ou des matières qui sont pas fluides, qui sont pas agréables, qui sont difficiles à photographier parce que la lumière ne prend pas bien dessus, je dois le faire, c'est mon métier. Moi, je faisais un métier d'information, j'essayais de montrer aux gens, avec l'aide des stylistes, des coiffeurs, des maquilleurs, de montrer ce que pouvait être la tendance de la mode à un moment X.
Et quelquefois, c'était même pas la mode, c'était d'art et déchets.
Oui, entièrement d'accord avec vous.
Ça se portait pas du tout. Enfin, je veux dire, on essaye de nous en physiquer des choses qui ne sont pas réalistes et qui sont importables et improbables. C'est simplement aussi, alors je dirais, pour ramener un petit peu d'eau à votre moulin et peut-être au moins un peu de tendresse à votre profession que j'admire, c'est que vous apportiez aussi de la fantaisie dans les magazines et que c'est plutôt rigolo. On le jette après, puis on s'en fout de savoir s'il fallait des cheveux en raffia et puis des jupettes en inox.
Oui, tout à fait. Bon, moi, je me suis bien amusé. Je peux reconnaître qu'à une période de Femina, avec une rédactrice en chef que j'aime beaucoup, qui est Marie-Pierre Dupont, qui m'a fait entièrement confiance, qui m'a laissé libre de faire plein de choses, des fois un peu des folies, mais qu'elle acceptait de bon gré en me disant bah, « Ok, j'assume parce que c'est comme ça ». Mais je me suis bien amusé parce que je me suis retrouvé à photographier des maillots de bain dans le fond d'une piscine, je me suis retrouvé à photographier des
gens… Ça, au moins, c'est logique. Hein.
C'est logique, mais dans le fond d'une piscine, sous l'eau.
Oui, c'est logique au moins. Voilà. C'est possible et probable et portable.
C'était portable. Et bien, c'était peut-être ce qu'il y a de plus facile à photographier. Mais je me suis bien amusé. Pendant des années, je me suis bien amusé.
Je vous pique un peu, mais Dominique de Risbourg, moi ce que j'aime bien, c'est que vous avez la pêche pour répondre, et en plus, vous êtes un Français, un ch'ti, un petit gars du Nord, vous n'êtes pas quelqu'un qui est né dans les milieux sophistiqués, je sais pas, que ce soit de la mode ou d'autres choses.
Ah pas du tout, non, je suis un vrai ch'ti. Je suis né à peut-être 20 km des Corons, des Terris, vraiment le nord des mines. Et je suis né dans une famille. Mon papa était, et toujours d'ailleurs, il est à la retraite maintenant, mais était droguiste. Donc c'était quelqu'un, un droguiste français. C'est quelqu'un qui vendait de la peinture, de la moquette, du papier peint. Vous voyez, donc c'était assez terre à terre.
De cette éducation, qu'avez-vous gardé d'essentiel? Je ne sais pas, on peut imaginer des choses qui nous bloquent, mais aussi des choses qui nous permettent de résister ou de développer des qualités.
Mon éducation, malheureusement, ma mère a été assez malade pendant très 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 longtemps. Donc ma jeunesse a été un peu entre mon papa qui s'occupait de son magasin, qui essayait de s'occuper de nous malgré son travail, ma mère qui était à l'hôpital, qui passait beaucoup de temps à l'hôpital. Donc on a été un peu élevés entre mes grands-parents et puis j'ai passé énormément de temps en pension. Et puis je pense que la pension, c'est quelque chose qui m'a forgé mon caractère. Je crois que beaucoup de gens me reprochent d'avoir un caractère très 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 dur, très indépendant, très peut-être solitaire. Mais je pense que la pension, quand on se retrouve assez jeune dans une pension, je pense que c'est quelque chose qui, on ne peut pas l'accepter, mais au bout du compte, ben, on se forme un caractère d'indépendance, peut-être un peu dur, peut-être un peu, un peu triste, peut-être.
Triste. Et puis chic, le chic, il est venu d'où, quand, comment, ça s'apprend?
Le chic, hein, par rapport à la mode, c'est devenu par les rencontres des gens. Vous savez, je crois que je disais à quelqu'un l'autre jour que j'ai dû faire pendant des années des photos de mode. Et je pense que je me suis un peu fourvoyé. Je crois que je me suis retrouvé photographe de mode un peu par hasard. Et qu'au fond de moi, c'est pas mon univers. C'est pas, pour moi, la mode, c'est pas un but en soi, quoi. Il y a quelqu'un qui a dit que la mode, c'était une ambition de feuille morte. Et puis je trouve ça assez juste et assez beau.
C'est pas Lagerfeld qui a dit ça?
Peut-être. C'est possible.
On écoute Stanislas, il est très mode lui. Il a des copains dans la musique, on le connaît peu, mais c'est un gars qui écrit bien, qui chante bien, fou d'elle.
Je m'endors avec, je l'ai dans la tête, j'avoue je m'entête et ça m'embête. Je me lève avec, toujours elle en tête, c'est un film peut-être, faut que ça s'arrête. Je la vois pas.
C'était Stanislas.
Intérieur sur la première.
On est toujours, je sais pas, dans le hameau au-dessus de Montreux qui s'appelle comment, chez Dominique de Risbourg.
Moi, j'habite à Palan-sur-Montreux. C'est vraiment entre Chernay et Montreux.
Alors, vous m'avez dit, j'aimerais vous montrer mon bureau pendant qu'on écoutait Stanislas. On va descendre un escalier en colimaçon tout en bois. J'ai enlevé mes chaussures et on est en chaussettes, faut pas glisser. Là, il y a des photos de fleurs qui sont absolument superbes. Évidemment, toutes les photographies qui sont au mur chez de Risbourg, c'est les vôtres.
Non.
Comment ?
Pas du tout. Non, il y a très peu de photos de moi.
Alors, les fleurs, oui.
Fleurs, oui, mais sinon, le reste, c'est des photos d'amis. Là, c'est une photo de Serge Borner, qui est un photographe peintre de Vevey.
Magnifique photo de femme quasi nue qui saute, un mouvement arrêté exceptionnel en noir et blanc.
C'est une photo des danseurs des Nomades.
Qui sont installés à Vevey.
Exactement.
Et puis là, derrière vous, vous avez collé des vogues ou je sais pas, des photos de mode. Ça, ce sont des photos de vous ?
Alors, il n'y a aucune photo de moi, sauf une.
Ne dites pas qu'il faut que je la cherche parce qu'il y en a au moins 80 ou 100. Et c'est rigolo de faire un papier tapisserie avec des photos de mode. Alors, c'est laquelle que je devrais trouver en principe qui est la vôtre ?
Une photo noir et blanc.
Ah, celle-ci ? Ah non, c'est pas une photo en couleur avec un chien noir et blanc, un dalmatien.
Voilà, c'est en plaisantant avec nos amis, c'était notre demi-chien. On a eu la chance pendant des années de pouvoir partager un chien avec une amie de ma femme. Et ça, c'était génial parce qu'on a on avait les avantages sans inconvénients. On avait le chien quand on avait envie et puis les autres personnes l'avaient. Donc tout le monde était content.
C'est bizarre, il obéit aux deux propriétaires puisque vous êtes deux propriétaires.
Alors, donc, il était habitué tout petit à venir dans les deux maisons. Donc, il a été habitué tout de suite. Il avait sa niche, son endroit pour dormir ici, sa gamelle. Quand il arrivait, il était chez lui. Et puis, quand il repartait. C'était, pour lui, il n'y avait aucun souci. C'était vraiment, je pense, les animaux sont moins attachés aux gens. Je pense qu'ils sont aux gens aussi, mais non, il n'y a jamais eu de souci. Il était heureux d'être là.
On arrive dans votre bureau ici. Waouh. Alors, c'est un endroit qu'on dirait semi-enterré, en quelque sorte, parce que les fenêtres sont obturées.
Alors, c'est au sous-sol et donc on a un seau de loup. Donc là, évidemment, c'est la nuit, donc on ne voit pas la lumière. Mais la journée, on peut avoir la lumière qui rentre. Mais c'est un lieu un peu dans la pénombre, c'est fait exprès parce que je travaille beaucoup avec l'ordinateur pour retoucher mes images, pour travailler mes images. Et que l'absence de lumière, ça permet d'avoir une neutralité pour ne pas être perturbé pour les couleurs.
Alors là, au sol, une série de photos sur un tapis, des petits formats, je ne sais comment les décrire. Alors, il y a à la fois les paysages, il y a des photos de plats, ça me rappelle de Courten, parce que j'ai vu ces photos dans son nouvel ouvrage Empreinte, paru chez Favre, et puis il y a des poissons, etc. Ah, mais c'est en parallèle de la sortie du livre Empreinte.
Alors, avec Didier de Courten, pour qui j'ai fait son dernier livre, on a fait tellement d'images, on a rencontré tellement de gens qu'on trouvait presque dommage que l'aventure s'arrête. Et que c'est que plein d'images qui ne sont pas dans le livre, parce qu'il y a un moment, il y a un certain nombre de pages, il faut faire un choix, que ces images disparaissent et que personne ne puisse les voir. Donc on a eu l'idée, Didier de Courten et moi, de faire une exposition de photos et de montrer des images qui ne sont pas dans le livre, ou alors qui sont en tellement petite taille. On voulait les montrer, on voulait que des gens du Valais qui ont été tellement sympas d'accepter qu'on les photographie, qu'on puisse leur rendre un peu hommage, qu'on puisse rendre hommage au paysage, puis qu'on puisse montrer ces photos que personne ne pourrait voir. Donc on a eu l'idée d'organiser une exposition à Sierre et on va montrer ces photos.
Alors je rappelle que Didier de Courten, pour qui ne connaît pas la gastronomie, c'est le grand chef du Terminus, 19 au Go Mio, 2 macarons Michelin qui le mérite largement le troisième, et on espère qu'un jour il le recevra, et son ouvrage est absolument exceptionnel. Vous avez fait des dizaines et des dizaines, voire même des centaines de photos, parce que je crois qu'il y a 400 recettes, mais une centaine de photos essentielles de plats. On va raconter peut-être en détail comment se construit un livre comme celui-là. Mais cette exposition qui va débuter bientôt à l'hôtel de ville de Sierre, elle a aussi un but qui est celui de fournir un peu d'argent à une association. Et ça, c'est une des motivations de votre existence en général, de Risbourg, Dominique, Dom,
oui. Disons que... Comme tout le monde, je pense qu'on a envie d'essayer d'aider les gens. Donc moi, avec le fait de montrer des photos et peut-être d'arriver à en vendre quelques-unes, l'idée, c'était d'aider une fondation. Donc on a voulu, Didier de Courten et moi, aider Fondaction. Donc Fondaction, c'est une fondation qui se trouve à Lausanne et qui fait de la recherche en immunologie sur le cancer. Et donc l'idée, c'était que si des photos se vendent, c'était que les bénéfices de cette vente puissent aller à la recherche sur le cancer pour pouvoir faire gagner du temps à ces chercheurs, faire gagner du temps à des gens qui peuvent être malades. Voilà, si on arrive à faire gagner peut-être même qu'une heure, ça serait déjà génial.
Il y a dans cette série de photos, alors beaucoup de choses. Il y a notamment, on va se mettre à genoux là sur le tapis, il y a des crocus, ça doit être Photographia Mundi.
Exactement, oui. Alors ça, c'est un champ de crocus qui a été planté par, par un monsieur, je ne sais plus comment il s'appelle. Et Didier de Courten utilise pratiquement tout ce safran venant de là pour sa cuisine.
Et puis juste à côté, une reine, une vache. On a vu que Didier de Courten appréciait les vaches de la race des Reims. Et puis, un personnage très beau, un visage, une gueule. Et ça me fait penser à ces mineurs qui sortent dans votre pays ch'ti de la mine. Alors là, il est bien propre et bien lavé, mais visiblement, c'est un homme qui travaille. Qui est-il, cet homme-là, en moustache ?
C'est un monsieur qui se trouve à Sierre et qui fabrique des sonnettes. Alors, les sonnettes, moi, j'étais très surpris. Je pensais naïvement, quand on m'a emmené photographier ce monsieur, que c'est... Je me dis, mais on va m'emmener photographier des sonnettes. Et en réalité, les sonnettes sont les cloches que les vaches ont autour du cou.
Oui, parce qu'en Valais, on ne dit pas les cloches, on dit les sonnettes ou les sonnailles, mais ce n'est pas des sonnettes à la porte quand on pèse sur le petit bouton.
Pas du tout, non. Et ce monsieur, ce qui était magique, c'est que quand on est arrivé dans l'endroit où il fabrique les sonnettes, il y a évidemment du feu. Et le monsieur, il avait tellement de chaleur, il était tellement transpirant par rapport à son travail, qu'on avait l'impression que le feu, il sortait de lui. Il était d'un côté, il y avait des reflets de lumière, de lumière du jour qui faisaient des reflets bleus d'un côté. De l'autre côté, il y avait des reflets oranges du feu. Et on aurait presque l'impression que ce monsieur, il est en feu. Et c'est vrai que ce visage tellement buriné, il a un regard complètement, complètement incroyable. Et c'est vrai que aussi, peut-être le titre de l'exposition, Le Regard, je pense que c'est un peu parti grâce à lui. Parce que l'idée, c'était de... Toutes ces photos, elles ont été faites en se promenant avec Didier. Il m'a emmené dans des endroits, dans la montagne. Il m'a fait rencontrer des gens incroyables. Et je dirais que le titre de l'exposition, c'est Le Regard de Didier de Courtaine par Dominique de Risbourg. Et c'est vrai que sans lui, j'aurais jamais pu faire ces photos. Il m'a emmené dans des endroits complètement extraordinaires, dans la montagne. Il m'a fait monter dans des montagnes à plus de 3000 mètres pour faire des photos de paysages, de chasse aux chamois. Il m'a emmené photographier des gens qui récoltent des asperges ou des cerises ou des vignerons. Et je dirais qu'il aurait pu faire les photos. Moi, j'étais le technicien qui appuyait au moment où je trouvais que c'était intéressant. Voilà, moi, c'est la seule chose que j'ai pu faire.
Dominique de Risbourg, on a l'impression, quand on voit toutes ces photos devant nous, que les photos, c'est un sujet, c'est un objet, ça peut être des choses extrêmement simples, mais que, dans le fond, l'aventure humaine vous intéresse davantage encore, et que c'est dans la relation avec Didier de Courtaine pour cet ouvrage Empreinte sur lequel vous avez travaillé 2 ans et demi, c'est les gens dont vous parlez, que vous avez rencontrés, c'est toujours les personnes, les humains, les êtres qui vous intéressent le plus. C'est pour ça que vous avez abandonné la mode, parce que c'était vraiment trop frivole et pas assez profond?
Oui. Je pense, bon, je continue à faire des photographies de mode pour commerciales, parce que je sais les faire et que j'ai, comme tout le monde, on doit gagner sa vie. Mais c'est vrai que le monde de la mode, c'est quelque chose de qui, à mon goût, n'a aucun intérêt. Moi, je peux m'habiller n'importe comment. Je ne vais pas commencer à regarder le matin si je dois prendre un pantalon comme ci ou avec une chemise comme ça. Moi, je vais prendre...
Vous êtes bien habillé, là?
Voilà, je suis en jeans avec un polo. Voilà, c'est agréable.
On s'en fout.
Voilà, on s'en fout exactement.
Mais c'est justement pour ça que ces gens tendance, ils sont inintéressants. Parce que je n'arrive pas à croire qu'il faille porter une ceinture comme ci ou des cheveux comme ça pour être intéressant.
Bah oui, moi non plus. Et c'est peut-être pour ça que maintenant je suis 10 fois plus heureux. Je pense qu'en 2 ans et demi de rencontres de gens avec Didier ou avec d'autres cuisiniers pour faire des photos, j'ai rencontré 20 fois plus de gens vrais, intéressants, riches. Qu'en 20 ans de photos de mode où j'ai peut-être rencontré 3-4 personnes qui étaient intéressantes. Le reste, ça n'a pas d'intérêt quoi, pour moi.
Alors, on va parler peut-être en détail de comment se construit un livre de cuisine. Mais d'abord, la relation première. Didier de Courtaine, vous êtes ami avec lui. C'est un être exigeant. Comment se passe la construction d'un livre ? C'est compliqué, il y a des égos qui se frottent, il faut arriver à ce que chacun, le photographe, le graphiste, l'éditeur, les proches, les cuisiniers et le chef, tout le monde, y trouve son compte. Et puis c'est finalement, ça peut devenir une chose tout à fait à cratopège, sans intérêt, si on protège tout, il faut quand même que ce soit le produit du chef. Alors s'il est si exigeant, c'est compliqué ?
Avec Didier, ça n'a pas été compliqué parce que je le connaissais depuis très longtemps. Et quand il m'a proposé de faire ce livre, je pense qu'il savait déjà ce que j'étais capable de faire. Donc s'il m'a choisi, c'était parce que j'allais pouvoir aller dans son sens. C'est clair que si on vous impose un photographe et puis que ça ne va pas dans le sens où vous avez envie de faire les choses, ça devient compliqué. Avec Didier, les choses elles ont été naturelles, simples. Il aimait ce que j'aimais faire. Et on a discuté. Moi, j'ai proposé une manière de photographier j'avais une idée depuis très longtemps de ne pas photographier de l'aliment sur des assiettes, parce que je trouvais que les assiettes, il y avait ce côté toujours un peu limitatif par les bords des assiettes. Donc on a toujours ce bord qui apparaît, qui me dérangeait. Photographier, comme certains l'ont fait, sur des fonds entièrement blancs, il n'y a pas ce côté culinaire, parce qu'on ne mange pas sur une surface blanche.
Ça veut dire que vous voulez fabriquer du rêve quand même, quelque chose d'autre que le quotidien.
Oui, mais on voulait faire rêver un livre. Je pense que des livres de cuisine, je vais peut-être être un peu dur, mais il y a deux livres de cuisine. Il y a des livres plus pour que les gens apprennent à faire certaines choses donc, qui sont très didactiques. Et puis après, il y a des livres de chefs, de recettes, où on peut faire rêver les gens et on peut montrer qu'une pâte de fruits, ça peut être autrement que simplement posée dans un bocal.
Intérieur, être soi, sous son toit.
Alors ça, c'est une photo que j'ai faite pour Didier de Courtaine aussi. Depuis, ça fait d'affaires, je ne sais pas, 10 ans que je fais des photos pour lui. Et à force, par exemple, on a fait, quand Didier de Courtaine a eu son nouvel hôtel de Terminus, quand il a ouvert, la question s'est posée qu'il fallait décorer l'hôtel. Alors, en accord avec l'architecte Éric Papon, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il mettait des tableaux qu'il pouvait emprunter à des galeries d'art ? Est-ce qu'il allait acheter des œuvres d'art ? Et puis, il m'a dit, mais tu peux me faire des photos. Alors donc, on a décidé de faire des photos, chaque étage de l'hôtel, les photos dans les quatre ont un rapport avec la cuisine, mais de manière détournée. On ne voulait pas refotographier des plats, parce qu'on s'était dit que les gens qui allaient manger un menu gastronomique avec 10 plats et qui allaient rentrer dans leur chambre, ils n'avaient peut-être pas spécialement envie de revoir un plat. Donc on s'est amusé avec la truffe, on s'est amusé avec les pâtes de fruits. Alors les pâtes de fruits, en général, on les voit bien rondes, bien jolies. Et puis quand on les fabrique dans un restaurant, une pâte de fruits, c'est des grandes plaques que le cuisinier recoupe et puis qui ressoupoudre de sucre. Et moi, je me suis amusé à faire des genres de sculptures. J'ai à chaque fois essayé de détourner l'aliment pour en faire un peu une sculpture, une petite œuvre, transformer l'aspect premier de l'objet en quelque chose qui puisse faire rêver les gens.
Ce que vous nous expliquez là, Dominique de Risbourg, c'est que, dans le fond, un photographe, ce n'est pas seulement un œil, c'est quand même un mec. Au début, je vous posais la question au début de l'émission, mais dans le fond, on s'aperçoit que vous êtes un créateur, vous êtes quelqu'un qui ne regarde pas les choses et qui ne témoigne pas, mais qui est un acteur de ses propres photographies.
Pas toujours. Il y a vraiment, je pense, deux façons de... Il peut y avoir le côté commercial où on vous achète pour faire un travail que vous savez faire et puis vous l'exécutez le mieux possible. Et puis la deuxième chose, c'est vrai que quand on a la chance de pouvoir travailler, de pouvoir transcrire ses rêves, bah, c'est magique. Quand vous avez la chance de tomber sur un cuisinier qui vous fait confiance et puis qui vous donne des pâtes de fruits ou bien qui vous envoie une truffe par la poste. Moi, Didier, un jour, j'ai reçu une truffe qui faisait, je sais pas, peut-être 80 ou 100 grammes par la poste avec un petit mot me disant, voilà, tu photographies la comme tu veux et avec un petit mot rigolo à la fin et tu la manges qu'à la fin. Alors j'ai photographié la truffe pendant une journée et puis je l'ai mangée à la fin.
Joli projet. J'aimerais bien faire des livres de cuisine. J'en ai fait quelques-uns et en effet j'ai profité aussi de ce genre de gestes généreux de certains chefs. On écoute Émilie Simon, Rocket to the Moon. Baby, baby, what you gonna do? Baby, baby, I'll leave it up to you. Baby, baby, it's your move. Are you gonna take this right? What you say? Baby, baby, don't be late. I got no time, I'm in a rush. I'm in a rush, I'm Émilie Simon, Rocket to the Moon.
Intérieur, une émission de Daniel Fazan.
On est toujours assis sur un kélim, c'est juste chez Dominique Derisbourg.
Oui, tout à fait.
Un kélim avec des photos qui seront apparaître et qui seront inaugurées prochainement à l'hôtel de Villassière. Allez voir cette exposition. Et puis là, on contourne le bureau central ici, si vous êtes d'accord, Dominique. Et puis voilà des tirages grand format de ces photos qui seront exposées. Alors, c'est incroyable. Vous m'avez tendu l'autre jour une carte de visite en papier arche. Ces beaux papiers qui sont frangés parce que c'est du papier cuve. Hein.
Voilà, tout à fait. C'est un papier cuve et c'est un papier qui est 100% naturel en coton. Et depuis longtemps, je voulais essayer de retrouver un côté un peu naturel à la photo. Parce qu'on est passé depuis une dizaine d'années à la photo numérique. On peut pratiquement, professionnellement, pas faire autrement. Par contre, on avait le côté numérique de la prise de vue, la retouche. On avait le tirage qui était aussi numérique. Et donc, plein de gens pensaient que c'était facile ou qu'il n'y avait plus d'âme dans la photo. Et moi, je voulais absolument arriver à essayer de retrouver un côté un peu plus artisanal. Quand je disais ça... Donc moi, j'ai essayé de tirer mes photos sur un papier qui n'est pas fait pour la photo. C'est un papier qui sert pour faire des aquarelles qu'on achète dans des magasins tout à fait normaux pour des artistes peintres.
Et qui vaut relativement cher, c'est un papier cher.
Ah, ça vaut horriblement cher, ça vaut très très cher. C'est des papiers qui valent très très cher. Et donc je me suis amusé en faisant des essais. Quand j'ai commencé à imprimer sur ce papier, évidemment, ce n'est pas fait pour ça. Donc l'encre, elle ne tient pas dessus. Donc vous aviez des images qui étaient complètement passées, qui n'avaient aucun intérêt. Et puis en travaillant un petit peu, en réfléchissant, en parlant avec des peintres, je me suis...
Et en parlant avec l'imprimante.
En parlant avec l'imprimante, oui, qui est devenue ma grande ennemie ou ma grande amie. J'ai eu l'idée un jour de me dire, mais la lithographie, c'est on imprime avec plusieurs passages d'encre, on imprime certaines couleurs, ce qui permet d'avoir certaines couleurs. Et alors, je me suis amusé à essayer de faire la même chose. Et alors, en essayant de bricoler deux, trois petits détails, je prends la feuille, je l'imprime avec certaines couleurs, je repasse la feuille une deuxième fois avec d'autres couleurs, une troisième fois, des fois quatre fois, et ce qui me permet d'amener une certaine saturation, certaines couleurs, et surtout ce qui permet d'amener à l'objet un côté un peu unique, parce que avec les décalages de la technique, avec le papier qui bouge un petit peu, chaque image est différente.
Mais Dominique Derisbourg, c'est extraordinaire parce que la technologie avance et on revient aux anciennes recettes, aux vieilles marmites dans le fond, pour refaire la cuisine de l'art, parce que aujourd'hui il n'y a plus assez d'âme dans la technologie et qu'on peut réinventer cette technologie. Et je vois juste à côté de ces photos qui vont être exposées ici, il y a cette photo notamment qui est parue il y a quelques années dans Femina, c'est un tableau, un des fameux portraits de Picasso bleu, de la période bleue, avec cette femme qui porte une chevelure bleue avec une frange, qui a une belle gueule, elle ressemble un tout petit peu à Frida Kahlo en plus maigre.
Ouais, tout à fait. Et ça, c'était un travail que j'ai adoré faire quand je faisais les photos de mode, c'était d'essayer de dès qu'une mode pouvait correspondre au style d'un peintre, hein, et qu'on pouvait trouver les habits qui correspondaient à ce peintre, de fabriquer des images qui ressemblait, de faire des genres de copies de tableaux en réalité, mais avec un vrai mannequin, avec une vraie coiffure, avec des habits qu'on pouvait acheter dans les magasins. Donc je fabriquais des grandes toiles qui faisaient à peu près 3 mètres sur 4 mètres.
Comme ce bout que je vois là-bas qui est brossé par votre huile de coude, si je puis dire.
Voilà, exact, la même chose, mais en plus grand. On mettait les modèles dessus et on refotographiait les modèles et après on retravaillait pour estomper, un peu comme un peintre, on estompait les parties qu'on ne voulait pas avoir, on redonnait plus de force à certaines parties. Je ne sais pas peindre, mais j'imagine qu'un peintre fait la même chose, c'est-à-dire qu'il arrive à effacer des choses qu'il ne veut pas montrer, il arrive à accentuer. Et dans les photos, j'essaye de faire la même chose quand je fais un paysage, j'essaye de... Le paysage, on ne peut pas le changer, puisque la lumière, on ne peut pas la changer. Mais par exemple, s'il y a des choses qui ne m'intéressent pas, ben, je vais les effacer. Si par exemple, je veux amener le regard sur une petite maison qui se trouve dans un coin du paysage, eh ben, je vais faire des ombres à certains endroits, je vais éclairer certains endroits de la photo pour que l'œil suive le chemin et puis arrive à l'endroit que je veux lui montrer.
Alors, à la fois vos photos sont imprimées à la manière des lithographies et vous avez fait des photographies à la manière des peintres. Ça veut dire que la photo reste quand même un grand geste culturel depuis bientôt 200 ans et que c'est relié à la culture humaine, que c'est important. Enfin, je veux dire que on peut pas ignorer que la photographie, c'est un art absolu en soi.
Je pense que c'est devenu un art. pas pour tout le monde, parce que les gens considèrent que le côté de pouvoir reproduire à l'infini une image, c'est moins précieux puis moins rare qu'une peinture. Une peinture, vous avez une peinture, elle est unique. Une photo,
c'est un peu comme une gravure.
C'est un peu comme une gravure, voilà. Alors, effectivement.
Mais Irving Penn est mort ces jours. Je voyais l'autre jour dans un Canard une couverture Vogue des années 50. Je crois que c'était de 51. C'était extraordinaire et superbe. Il y avait des dessinateurs aussi à l'époque de presse de mode qui s'appelait Gruot, par exemple. Le noir blanc, la force du noir blanc et le talent de ces gars, ils ont quand même marqué le 20e siècle.
Ah bah Irving Penn, ça reste un maître. Je pense que c'est un maître pour tout le monde. C'est quelqu'un qui a fait changer les choses. C'est quelqu'un qui a pas joué de l'artifice. C'est toujours très simple, hein, Irving Penn. C'est quelqu'un qui a voyagé dans le monde entier. C'est quelqu'un qui est sorti justement. Je pense qu'il a été un des grands photographes de Vogue, de Harper's Bazaar. Mais il est parti au Népal. Il est parti en Afrique. Il a photographié les gens normaux sur des bâches toutes simples. Et il arrivait à retirer vraiment l'essence même de ce que les gens pouvaient sortir. C'était l'un des premiers, je crois, à avoir fait une couverture du Vogue ou du Harper's Bazaar avec une nature morte. Il a eu aussi cette grande période où il trouvait dans des objets tout à fait anodins, comme des mégots de cigarettes ou des paquets de cigarettes écrasés, des mégots de cigarettes, il les photographiait, il trouvait des objets qui...
Il les agrandissait en plus.
Voilà, il les agrandissait et ça devenait un objet complètement vulgaire, en devenait un objet d'art.
Dans l'œil du photographe que vous êtes, Dominique de Risbourg, c'est quoi le beau ? Tout peut être beau ?
Tout peut être beau.
D'après la lumière ?
La lumière et la simplicité. Je pense que on a chacun une voie, on essaie de suivre une voie. Et la voie que j'essaye, mais peut-être j'y arriverai jamais, c'est la simplicité. Je pense que tout ce qui peut paraître simple, c'est peut-être très compliqué à faire. Mais je pense que la complication, les choses trop compliquées, que ce soit dans la cuisine, la musique, c'est au détriment de la qualité et de l'émotion. Je pense qu'un plat, quand il est simple, quand on a un aliment qui a le goût de l'aliment, puis qui est juste relevé par une ou deux choses, ça devient magique. Quand on commence à avoir des plats qui ont 10 saveurs différentes, ça devient plus terrible. Quand la musique, je pense que quand on écoute un piano solo, il y a quelque chose de magique à écouter. Quand on écoute trop d'instruments qui se mélangent, personnellement, je me perds. Je ne suis peut-être pas assez cultivé pour pouvoir comprendre la finesse de ce genre de musique. Je suis plus attiré par des choses vraiment très très simples.
Autre chose, Dominique de Risbourg, dans la mode, parce qu'on va peut-être revenir encore un tout petit moment là-dessus, on photographie des collections de printemps, c'est en hiver qu'on le fait, enfin je veux dire, c'est toujours à contre-saison. On va où pour faire ça? C'est toujours les Seychelles, c'est toujours une vie de palace pour les photographes, pour les mannequins, que sais-je. Ça se passe comment? Et il y a des lieux privilégiés pour faire ce type de photos?
Alors oui, c'est pas toujours les palaces, malheureusement, mais par contre, effectivement, c'est toujours les mêmes lieux. C'est des endroits où il fait beau quand il fait mauvais ici, donc c'est les États-Unis, c'est Miami, c'est l'Afrique du Sud énormément, que ça a l'avantage d'avoir des paysages totalement différents sur 30 km de distance. Donc on trouve des endroits qui ressemblent aux Seychelles, en passant par la Bretagne, en passant voire par la Suisse, par des grandes villes modernes, par des petits bocages normands. C'est magique comme lieu. C'est vraiment un pays... magique.
Alors, vous me disiez tout à l'heure, pendant qu'on écoutait Émilie Simon chanter, que c'était tellement bien organisé qu'il y a carrément des sociétés locales de production qui vous organisent la vie pour les tournages, je dis les tournages parce que c'est en réalité presque ça, pour les photographies, pour les plateaux. Vous avez carrément tout sur place pour bien faire.
Ah oui, on va sur place parce que ça nous évite de déplacer des mannequins, des coiffeurs maquilleurs. On arrive sur place à Cape Town et on a des agences de mannequins, des coiffeurs maquilleurs. On a des gens qui vous gèrent les repérages, les autorisations, les permis pour pouvoir faire des photos, parce qu'on ne peut pas faire des photos n'importe comment. Il faut payer des autorisations et on a tout sur place.
Les hyènes, c'est Fabien Tarin qui a écrit ce titre pour Thierry Romanos. C'est pas si méchant que ça, les hyènes, finalement.
Ne venez pas cogner ce soir, contre ma porte je ne serai plus celui qui vous a dit au revoir hier avant de vous quitter. Marche après marche au fond de moi-même, je vais descendre l'escalier pour aller nourrir mes hyènes tout à l'heure. Le sang va couler et c'est comme le chant des sirènes, comme une langueur, un mystère, comme un appel, un baiser, on ne peut y échapper. Parfois quand je les entends qui hurlent, leur faim immense au fond de moi. J'aimerais ouvrir ce ventre qui brûle, les faire taire pour une fois. Mais je n'en ai pas la force et même y trouverai-je le repos. Ce soir j'irai nourrir mes hyènes, déposer une vie sous leur croc. Et c'est comme le chant des sirènes, comme un appel, un baiser, comme une promesse douce de pouvoir se reposer. Et c'est comme le chant des sirènes, comme un appel, un baiser, comme une langueur, un mystère, on ne peut y échapper. Vous si belle et moi comme un verre, quelle autre peau pourrais-je caresser? Je me promène sous la terre que vous foulez de vos pieds. Demain, je serai de nouveau l'homme que vous connaissez maintenant. Monsieur, tout le monde en quelque sorte libre. Pour combien de temps à chacun sa fuite, son enfer? Je ne connais que trop la mienne. Je passerai sous vos fenêtres en allant caresser mes hyènes. Et c'est comme le chant des sirènes, comme un appel, un baiser, comme une langueur, un mystère, on ne peut y échapper. Et c'est comme le chant des sirènes, comme un appel, un baiser, comme une promesse douce de pouvoir se reposer. Sirène, comme un appel, un baiser, comme une promesse douce de pouvoir se reposer. Et c'est comme, et c'est comme, et c'est comme.
C'était Thierry Romanens, un album superbe, écrit notamment avec, essentiellement par Fabien Tarin, qui était un des invités, et tous les deux l'ont été, de cette émission intérieure. On fait une dernière traversée de la maison, peut-être, Dominique de Risbourg. Quels sont vos espoirs? Vous avez quitté la mode parce que vous en avez un peu marre, vous faites un peu d'alimentaire avec la mode, mais vous n'avez plus vraiment la passion. Quelles sont les envies d'un photographe que vous êtes à 47 ans, qui a encore 20 ans de photographie? Et quels sont, je ne sais pas, vos rêves?
Alors, la mode, j'aime encore en faire. Simplement, je ne veux plus en faire avec certaines contraintes. Donc, quand j'ai la chance de pouvoir choisir des sujets, choisir les gens avec qui je travaille, je prends toujours un plaisir à m'amuser. Mais pas avec des contraintes énormes. Et le reste, mon rêve, c'est comme, je pense, comme plein de photographes, c'est d'arriver à fabriquer ses propres images sans aucune contrainte et puis d'essayer de les exposer.
Je vois derrière vous, près du radiateur, un portrait au sol noir-blanc, superbe. C'est une belle gueule, c'est une des plus belles gueules du Valais, c'est Leonard Gianada. Il n'en reste pas moins que l'être humain reste, je sais pas, je peux imaginer pour vous, juste au-dessus, il y a une photo d'une très belle fille avec des cheveux bleus. L'être humain reste le sujet essentiel, central de la photographie malgré tout?
Non. Moi, j'aime vraiment photographier des personnalités ou quand je fais mes nus, c'est une relation avec les gens qui est extraordinaire, d'arriver, les rencontres de gens. Mais j'adore faire des paysages, des natures mortes. Je me retrouve chez moi avec une fleur et passer une journée avec une fleur ou même un morceau de pain ou un objet tout à fait anodin sur un fond que j'ai peint moi-même et le photographier, attendre que la lumière soit intéressante, je trouve ça fascinant, fascinant.
Oui, c'est chouette ce que vous dites, parce que c'est vrai que tout est beau quand on le regarde bien, mais il faut aimer les choses, donc dans le fond, il faut aimer la vie.
Oui, c'est clair.
Oui. Non, mais ça paraît une banalité, une évidence, mais c'est tous les jours que vous aimez la vie, et tous les jours vous aimez regarder les choses, et tous les jours vous photographiez.
Je photographie, je crois, presque tous les jours. Alors, j'aime peut-être pas la vie tous les jours, comme tout le monde, mais j'essaie qu'elle m'aime. J'essaye qu'elle m'aime et j'essaie d'avoir un exercice de faire une photo par jour. Donc, d'arriver, ça peut être un paysage, un ciel, un reflet dans le lac. Ça peut être une feuille morte qui est tombée sur ma terrasse. Ça peut être une vieille photo que je retrouve et que je retransforme différemment parce que je la vois différemment. En me disant, tiens, j'ai fait une photo à San Francisco, à tel endroit. Je reviens un peu dans mon passé. Il y a un côté peut-être un peu nostalgique. Et je la retravaille à ma manière en me disant... Et je pense que la même photo qui est quelque chose de brut, comme un négatif d'avant, je pense que si je le travaillais toutes les semaines pendant 20 ans, je pense que j'arriverais à faire 1000 photos totalement différentes, j'en suis persuadé.
On va se quitter ici, mais quand même, on peut se poser des questions, Dominique de Risbourg. Là, ça change de son, j'aime beaucoup. On est dans l'escalier en colimaçon. Alors, comme on ne peut pas passer parallèle, je parle tout seul et puis je monte à l'étage. Malgré tout, depuis 25 ans ou 30 ans que vous photographiez à 47 ans, les technologies ont changé. Vous avez passé, on l'a évoqué tout à l'heure. Il va y avoir encore des changements de cette nature. Vous arrivez à imaginer ce qui peut encore changer dans la photo et peut-être pas votre rapport au sujet, mais dans la technique de la photo.
Je pense que la grande évolution qu'il va y avoir, ça va être la simplicité. C'est le fait que... Quand on a une photo numérique, on a quelque chose qui n'existe pas. Donc le problème, c'est que vous avez sur une carte mémoire ou sur un ordinateur une image qui a une couleur et qui aura une couleur différente sur 10 ordinateurs différents. Et ça, c'est le gros problème. Alors, je pense que l'évolution, ça va être d'avoir des genres de systèmes informatiques qui vont permettre que l'image que l'on voit chez quelqu'un soit la même couleur que l'on voit ailleurs. Je pense que la grosse évolution va être là.
Ah, l'objectivité absolue, c'est-à-dire d'une manière mathématique absolue.
Une uniformité, je pense que d'arriver à ce qu'on puisse... Quand on voit une image sur l'ordinateur de quelqu'un à New York, ou qu'on le voit à Paris, ou qu'on le voit à Genève, que les personnes parlent de la même chose. C'est-à-dire que le bleu soit le même, que le vert soit le même, qu'on n'ait pas l'impression qu'on ne parte pas n'importe quel sens. Je pense que l'évolution sera là.
Et vous serez le même dans 20 ans ?
Non.
Dommage, ou tant mieux. Je ne me prononcerai pas sur la différence. Merci de nous avoir reçus ici à Montreux chez vous, Dominique de Risbourg. Je quitte, vous avez allumé, il y a les lumières, les couleurs de l'automne, parce que vous avez allumé les... J'adore cet arbre, vous le connaissez celui-là ?
Non.
Mais si...
C'est beau, mais je ne sais pas comment il s'appelle.
Ah, c'est bête, je ne retrouve plus son nom. Le sumac.
Ah, peut-être, ouais.
Ah, mais c'est tellement beau, les couleurs. Allez photographier ça.
Demain.
Bonne nuit. On se quitte ici. Mr. Rainbow Song, c'est Muriel Dubuis, du jazz. Un petit peu de jazz.
Bonne soirée, merci beaucoup.
Merci à vous. Bye bye, au revoir.
Remember your golden. Remember your golden when I'm gone. Remember you taught me to reach inside for love. I saw the dark clouds, now I see there comes a shaft of light. But better be in your heart than alone in the simple white or wrong. This is my rainbow song. Through the spectrum of your soul, I see and love shine in purest gold. This is my rainbow song. Escaping, I'd say.